Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Cette semaine, nous avons été avec Guillaume Yaume à la rencontre de Dominique Vidal, qui est rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique, pour essayer de comprendre un peu plus la situation au Proche-Orient et en particulier au Liban. Donc Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre avec Dominique?
Bah non, quelqu'un de brillant, pertinent, éclairant et très didactique. Donc c'est vraiment quelqu'un d'agréable à interviewer. Et enfin, on aimerait bien continuer à le rencontrer, ce garçon.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, il a écrit un ouvrage tout simple qui s'appelle « Les sans clés du Proche-Orient », qui, pour essayer de comprendre la situation justement dans cette région, est très intéressant. Donc c'est « Les sans clés du Proche-Orient » aux éditions Hachette. Et pour commencer, avant de partir plus exactement sur la guerre au Liban qu'il y a eu cet été, on lui a demandé de nous faire un petit panorama sociopolitique de la situation au Liban avant la guerre de cet été.
Le Liban est, comme tous les pays du Proche-Orient, un État qui a été profondément bousculé depuis maintenant presque 60 ans par le conflit israélo-palestinien. Il faut dire, avant d'entrer dans le détail, que le conflit israélo-palestinien, depuis la création de l'État d'Israël en 1948 et l'expulsion de 800 000 des 1 200 000 Palestiniens qui se trouvaient sur le territoire qui est devenu celui d'Israël, ce conflit a toujours été au cœur des conflits du Proche-Orient. Ça ne veut pas dire que sa solution suffira à résoudre tous les conflits du Proche-Orient, mais c'est une condition sine qua non, non suffisante, mais nécessaire. La preuve en est le Liban, puisque le Liban a été bousculé, je le disais, dès 1948, par l'arrivée massive de réfugiés palestiniens qui, la démographie aidant, sont devenus une composante importante de la population libanaise, avec deux conséquences essentielles qui expliquent pourquoi le Liban a connu une guerre civile si longue de 1975 à 1990 et une guerre civile qui menace toujours de reprendre. C'est que vous avez eu, du fait de cette implication du Liban dans le conflit israélo-palestinien, d'une part, une accélération des modifications démographiques internes du Liban, au sens où les musulmans sont devenus majoritaires, alors que les chrétiens devenaient minoritaires, pas seulement du fait de l'arrivée des Palestiniens, mais aussi, et d'autre part, que l'État d'Israël, à plusieurs reprises, notamment à partir de 1978, a été amené à intervenir au Liban pour y poursuivre son combat contre les Palestiniens. Donc, si vous voulez, l'arrivée du conflit israélo-palestinien a eu un double effet déstabilisant pour le Liban par les actions démographiques et par l'intervention successive d'Israël. En gros, on peut dire que la guerre civile qui commence en 1975 au Liban, qui va être une guerre civile terrible, hein, qui va faire 150 à 200 000 morts, cette guerre civile est directement liée au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que les dirigeants chrétiens maronites du Liban, pas eux tout seuls, mais eux surtout, vont considérer les Palestiniens comme des ennemis dans la mesure où le mouvement démocratique libanais, ce qu'on appelait à l'époque le mouvement national libanais, dans sa recherche de réformes profondes du système libanais, a essayé de s'appuyer sur la présence globale, mais en particulier aussi armée, des Palestiniens. Et deuxièmement, parce que les interventions israéliennes ont contribué à aiguiser la guerre civile. N'oubliez pas qu'à partir de 1978, donc 3 ans après le début de la guerre civile, Israël occupe le sud Liban. Et qu'en 1982, il va envahir tout le Liban, encercler Beyrouth. Il ne réussira pas à détruire les forces de l'Organisation de libération de la Palestine, puisqu'elles partiront sous la protection d'une force multinationale, mais on sait que les populations civiles palestiniennes, elles, auront moins de chances, parce que la force multinationale est en partie, il y aura, chacun sait, les massacres de Sabra et de Shatila les 15, 16 et 17 septembre 1982. On pourrait dire, mais pourquoi parler de tout ça? Parce que la guerre de cet été est inséparable de ce long contexte, dans la longue histoire, de la guerre civile libanaise. Au fond, les Israéliens, comme toujours, dans leurs interventions au Liban, avaient trois objectifs. Premier objectif, modifier, si possible, les rapports de force au Liban, en défaveur des musulmans. En l'occurrence, Israël s'en est pris au Hezbollah et à la zone la plus forte du Hezbollah, au sud Liban, parce que le Hezbollah est un élément considérable, même si c'est une petite force en termes militaires, de résistance aux projets stratégiques américains, israéliens, occidentaux dans la région. Mais en même temps, Israël poursuivait au Liban sa guerre presque éternelle contre les Palestiniens, deuxième objectif. D'une certaine manière, on faisait au Liban la continuation de la guerre menée à Gaza. Et troisièmement, et ça c'est pas un propos dogmatique, je vais vous le montrer tout de suite, Israël avait un troisième niveau de son intervention qui était de s'inscrire dans ce que les Américains appellent la guerre globale contre le terrorisme. Et pourquoi je disais que j'étais pas un dogmatique, mais que j'appuyais mon propos, George Bush lui-même, cet été, a qualifié la guerre du Liban de troisième front de la guerre antiterroriste. Autrement dit, après l'Afghanistan et l'Irak, le Liban. Donc vous voyez qu'il y avait une intervention extrêmement construite et très préparée. Ceux qui disent qu'Israël a été surpris ne savent pas de quoi ils parlent. Cette guerre s'est préparée pendant des mois, non seulement en Israël, mais aux États-Unis. Il y a eu des réunions, on le sait aujourd'hui, entre des dirigeants politiques et militaires américains et israéliens pour préparer cette guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on prépare une guerre qu'on la réussit.
En même temps, on aurait pu penser qu'avec la révolution du Cèdre, qui a suivi l'assassinat l'an dernier de Rafik Hariri, les projets politiques de la très pro-occidentale de la bourgeoisie libanaise auraient pu satisfaire la politique israélienne.
Visiblement, Israël ne s'est pas satisfait de cette évolution. Je crois, si vous m'interrogez sur ce qui s'est passé au Liban, qu'il faut dire que les événements des 2-3 dernières années au Liban avaient un double caractère. Et on ne peut pas séparer un aspect de l'autre. Il y avait indiscutablement un aspect de conquête par le peuple libanais, par ses forces politiques, syndicales, associatives, d'une meilleure indépendance, et notamment à l'égard de la Syrie. La volonté de se débarrasser du joug syrien, dont je rappelle qu'il n'avait rien d'illégal, qu'il était inscrit dans les accords de Taif qui avaient mis fin à la guerre civile libanaise, les Syriens ne sont pas intervenus illégalement au Liban. Ce sont les dirigeants, et notamment les dirigeants chrétiens, qui les ont appelés en 1976 pour empêcher le mouvement national dont je parlais tout à l'heure, la gauche libanaise, de prendre le pouvoir et de transformer le système confessionnel en système démocratique. N'oubliez pas que la première chose qu'ont fait les Syriens au Liban en 1976, lorsqu'ils sont arrivés, c'est de massacrer le camp palestinien de Tal al-Zatar. Vous voyez comme les choses sont complexes. On imagine les Syriens solidaires des Palestiniens. Ça n'était pas du tout le cas, au contraire. Deuxièmement, je le répète, les accords de Taif qui ont mis fin à la guerre civile libanaise en 1989-90, ces accords prévoyaient la présence de la Syrie comme un élément de stabilisation et d'ordre. Donc, les Libanais, ou en tout cas une partie d'entre eux, et certainement la bourgeoisie dont vous parlez, ont voulu se débarrasser du joug syrien, c'est un aspect de ce qu'on appelle le printemps de Beyrouth. Mais il faut dire aussi que dans le même mouvement, il y avait, de la part d'un certain nombre de dirigeants libanais, mais aussi de la part des dirigeants américains, israéliens et, je dirais, malheureusement français, un calcul tout autre qui était d'affaiblir, là encore, toutes les forces qui pouvaient s'opposer aux projets occidentaux dans la région, et y compris aux projets américains. Donc, si vous voulez, on chassait les Syriens comme on chasse des gens qui imposaient un joug sur le Liban, mais on s'en prenait aussi à Damas comme lieu de résistance aux projets impérialistes, disons, dans la région. Et de ce point de vue, vous voyez bien la continuation. C'est-à-dire, au fond, Israël, c'est le premier aspect que je définissais tout à l'heure de sa stratégie dans la guerre du Liban, voulait porter un coup de plus à l'autre force qui s'opposait au Liban, aux calculs occidentaux, c'est-à-dire le Hezbollah. Si vous voulez, n'oubliez pas, parce qu'on parle du Hezbollah, on raconte n'importe quoi sur le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une grande force religieuse, politique, sociale et militaire. C'est comme le Hamas. On ne peut pas réduire ni le Hezbollah, pas plus que le Hamas, à son aspect seulement religieux ou à son aspect seulement militaire. C'est évident que si ces forces résistent avec autant de ténacité, c'est aussi parce qu'elles sont enracinées dans leur population respective. En l'occurrence, il y a 40% de chiites au Liban et une bonne partie, la grande majorité de ces chiites, font confiance au Hezbollah, pas d'aujourd'hui. Ils lui font confiance parce que c'est lui qui, à partir de 1982, a été la force essentielle qui a permis de chasser les Israéliens du pays. Les Israéliens sont partis en 2000, non pas parce qu'ils avaient envie de partir, mais parce qu'ils ne pouvaient plus rester au Liban, où ils étaient, je rappelle, au sud, depuis 1978. Donc ils y étaient restés quand même 22 ans. Donc le Hezbollah avait cette force-là. Et c'est ça que Israël, pour une part, a voulu casser en intervenant au Liban. Je le précise, sous-estime évidemment pas le rôle qu'a joué l'enlèvement de deux soldats israéliens, pas plus d'ailleurs que je ne sous-estime le rôle de l'enlèvement du soldat Shalit à la frontière de Gaza dans ce qu'on a appelé l'opération pluie d'été. Simplement, je crois que quand on fait des analyses factuelles comme ça et qui ne prennent pas le temps d'un détour historique suffisant, on aboutit à une pratique intellectuellement scandaleuse, pour ne pas dire plus, de ce que moi j'appelle le deux poids deux mesures. Parce que si, d'un côté, Israël a vu trois de ses soldats enlevés, et quelques-uns d'ailleurs tués à l'occasion de ses opérations militaires, il a quand même tué dans cette guerre, à Gaza et au Liban, plus de 1500 Palestiniens et Libanais. Alors vous me direz, il a aussi eu des pertes. D'accord, il a eu des pertes. Il y a eu 160 Israéliens, dont 120 soldats, donc 40 civils, 120 soldats qui ont été tués. De l'autre côté, 1500. Donc si je me réfère à la loi du talion que je n'aime pas, déjà telle qu'elle, œil pour œil, dent pour dent, je dois constater que la version Olmert de la loi du talion, c'est 10 yeux pour un œil et 10 dents pour une dent. Ça, évidemment, ça n'est pas acceptable, quel que soit le déroulé des événements eux-mêmes.
Pour en revenir au Hezbollah, est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est la ligne politique de ce parti ?
Le Hezbollah a plusieurs objectifs et je crois qu'on ne, là encore, on ne peut pas les séparer. Si vous voulez, en clair, la politique en général, ça ne peut pas se saucissonner, mais a fortiori au Proche-Orient, où tout s'imbrique et tout est complexe. C'est évident qu'il y a, comme tout un chacun le dit, même les gens qui n'y connaissent rien sont capables de le répéter, un rôle stratégique du Hezbollah à l'échelle de toute la région. Le Hezbollah est allié avec l'Iran, a été soutenu de longue date par l'Iran. Il est allié à un moindre degré, mais c'est important aussi, avec la Syrie. Et tout ça participe d'un jeu régional global. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi non seulement l'immense majorité des chiites, mais une bonne partie des chrétiens et des sunnites au Liban ont soutenu le Hezbollah dans cette guerre, si l'on ne mesure pas que le Hezbollah est à la fois, pour la population libanaise, un grand combattant social, un combattant contre les injustices, un combattant contre les discriminations, dans un pays comme le Liban, où les inégalités de revenus, de vie, sont absolument phénoménales, entre une petite caste bourgeoise qui bénéficie de bénéfices et de profits absolument gigantesques et une population immense déshéritée, on les appelle d'ailleurs les déshérités, c'est comme ça que le Hezbollah est né, comme mouvement des déshérités. Il y a évidemment quelque chose de terrible, et le Hezbollah est considéré comme un de ceux qui combat avec le plus de ténacité, de force, de cohérence contre ces inégalités. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, le Hezbollah est considéré, et cette guerre l'a confirmé, aux yeux de beaucoup de Libanais, pas seulement chiites, comme la seule véritable force de résistance à Israël. Si l'armée libanaise. Si les autres forces libanaises, chrétiennes, sunnites, voire chiites avec le mouvement Hamal, avaient opposé à Israël depuis 1948 et depuis 1978 en particulier, puisque l'occupation, à proprement parler, date de 1978, autant de forces que le Hezbollah l'a fait depuis peu de temps d'ailleurs, depuis 82, depuis sa naissance, eh bien je pense qu'elles auraient elles aussi, ces forces, beaucoup de sympathie et beaucoup d'influence. Ça n'est pas le cas.
Et donc, après la guerre civile, on a l'impression que les forces laïques de gauche ont disparu. Que sont-elles devenues ?
Je ne peux pas dire, ni vous laisser dire qu'ils se sont dissous et qu'ils ont disparu. Ces forces existent encore aujourd'hui. Le Parti communiste libanais a joué un rôle non négligeable dans la résistance à Israël, en alliance d'ailleurs avec le Hezbollah. On a, du côté chrétien, des forces qui ont elles aussi joué cette carte. Je pense en particulier à Michel Aoun, qui a joué d'autres rôles dans le passé, mais qui là est allié avec le Hezbollah. Donc, n'exagérons pas. Mais là où votre question est parfaitement pertinente, mais malheureusement, la réponse n'est pas seulement libanaise, mais elle est proche-orientale. Vous avez, depuis 20 ans, une tendance très large, on peut même parler de vague, qui explique pourquoi les forces de résistance, qui s'incarnaient autrefois dans les partis communistes, dans les syndicats, dans d'autres forces politiques de gauche, se sont petit à petit incarnées dans des mouvements se réclamant à des degrés divers de l'islam. C'est vrai du Liban avec le Hezbollah, c'est vrai de la Palestine avec le Hamas, on a vu les résultats des élections de janvier dernier, c'est vrai de beaucoup d'autres pays du Proche-Orient. On voit que l'islam politique, pas forcément intégriste, mais parfois intégriste, joue un rôle tout à fait déterminant. Donc ça n'est pas, à mon avis, un phénomène strictement libanais, même s'il a des dimensions libanaises, c'est un phénomène global. Ces régimes, tous ces régimes, ou presque, évidemment Israël, mais aussi les régimes qui dirigent ces pays, le Liban, l'Égypte, la Jordanie, tous ces pays du Proche-Orient, sont vécus par une bonne partie de leur population comme des régimes faillis. Faillis du point de vue économique, si vous regardez les rapports du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement depuis plusieurs années, ils indiquent que le Proche-Orient est une des rares zones au monde où on est en régression sociale, en régression de la santé, en régression de l'éducation, en régression pour les femmes, en régression pour les salaires. On est dans un phénomène de régression généralisé à la région. C'est unique, il n'y a pas d'autres zones. Hein. L'Afrique, il faut aller voir de plus près, ça dépend des pays. Là, on est vraiment devant une espèce de marasme. Et ça, évidemment, les populations, elles sont, notamment les plus pauvres, en colère contre cette donnée. Mais vers quoi se tourner ? Parce que le modèle arabe nationaliste, socialiste arabe, ces modèles-là ont eux aussi fait faillite. On est, si vous voulez, devant une double faillite. La faillite des régimes pro-occidentaux et de la politique néolibérale liée, pour aller vite, à la mondialisation, au phénomène de mondialisation, et la faillite des expériences socialistes ou nationalistes arabes des années 50, 60, 70, 80 encore. J'ajouterais que tout ça n'a pas rien à voir avec l'effondrement du communisme, puisqu'il y avait une alliance entre ces régimes socialistes ou nationalistes arabes et l'Union soviétique face à Israël. Donc ça joue aussi son rôle. Eh bien, dans cette situation-là, il faut constater, on ne peut pas ne pas le constater, que les forces qui se réclament de l'islam sont les seules à proposer, je ne dis pas une bonne voie, ce n'est pas mon opinion, mais une voie considérée comme cohérente, comme un espoir, par des couches de plus en plus larges de ces populations. C'est logique. On ne veut plus du modèle néolibéral, on ne veut plus non plus du modèle nationaliste ou socialiste arabe du passé. On se précipite vers ce modèle-là. Pourquoi celui-là ? Parce qu'on est dans une zone où l'islam est évidemment très influent, ultra-majoritaire, sauf à quelques exceptions près, pour l'essentiel d'ailleurs un islam sunnite, mais aussi dans quelques pays un islam chiite, eh bien, je dirais que comme chez nous, partout où les gens sont paumés, ne veulent plus du système en place, ne croient pas à l'alternative de caractère socialiste ou national, eh bien, ils ont tendance à se raccrocher à ce qui est le plus profond chez eux, le plus intime, c'est-à-dire leur identité, entre guillemets, ethnico-religieuse. Donc ce n'est pas une espèce de phénomène incroyable qui se propagerait au Proche-Orient sans qu'on puisse le comprendre. C'est le même phénomène qu'un peu partout, devant l'effondrement des modèles, des alternatives, des perspectives traditionnelles, on se tourne vers quelque chose qui répond culturellement, religieusement, à une tradition, à une identité. Et je crois que c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Quand j'ai dit tout ça, il faut certainement ajouter un élément de plus, mais moi je ne vais pas faire la critique de mes collègues de gauche d'autres pays, ce n'est pas mon affaire. Certainement que la gauche au Proche-Orient, que ce soit la gauche socialiste, la gauche communiste, la gauche sociale en général, altermondialiste, n'a pas su jusqu'ici bâtir elle-même une perspective, une alternative, des propositions, un programme, des formes d'action capables d'attirer vers elle des forces plus larges.
Oui, justement, le Hezbollah est considéré dans les médias toujours comme un parti terroriste, alors que selon vous, il semble que c'est plutôt en fait un mouvement de libération.
Vous savez, chaque époque a ses mots fétiches, et je crois que le devoir des intellectuels, des journalistes, de ceux qui entendent réfléchir, c'est-à-dire pas faire la politique spectacle avec Nicolas et Ségolène, avec des mots tout faits, avec des étiquettes, quand on veut être sérieux, on ne laisse pas les mots passer sans les décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire terroriste ? Moi, je suis bien sûr contre le terrorisme. Qui de nous, d'ailleurs, ne l'est pas ? Je ne connais pas beaucoup de gens en France qui sont pour le terrorisme. Mais à condition de définir. Quand des Palestiniens se battent contre la colonisation dans leur pays, quelle que soit, d'ailleurs, leur forme de lutte, y compris des formes de lutte armées, hein, je le dis franchement, est-ce que c'est du terrorisme ? Quand des Irakiens se battent contre l'occupation américaine et britannique, est-ce que c'est du terrorisme ? Est-ce que, quand les résistants en France luttaient contre l'occupation nazie, ils étaient des terroristes ? Ils ont tué aussi. Ils ont tué des soldats, des officiers allemands. Moi, j'appelle terrorisme le fait de s'en prendre à des civils innocents. C'est une définition simple et claire. Donc, je reprends mon exemple. Quand un groupe de militants palestiniens s'attaque à une colonie juive illégale en Cisjordanie ou à Gaza, ils ont le droit avec eux. Ils ont la charte des Nations Unies avec eux. C'est le droit de résister à l'occupation. Le droit de lutter pour son indépendance. Mais si ces mêmes militants vont se faire exploser dans une rue de Tel Aviv en tuant le maximum de citoyens israéliens, souvent d'ailleurs des Arabes autant que des Juifs, eh bien ça c'est du terrorisme. Quand l'État d'Israël, avec son armée, envoie des bombes à l'aveuglette sur des quartiers de Gaza ou de Ramallah ou de Hébron, pour moi c'est du terrorisme. S'ils arrêtent des gens et qu'ils les emprisonnent dans des conditions légales, ça n'est pas du terrorisme. Vous voyez, je crois qu'il faut raison garder. Alors, si l'on prend l'exemple du Hezbollah, le Hezbollah, et c'est bien ce qui avait valu à Lionel Jospin de se faire mal accueillir à l'université palestinienne de Birza parce qu'il avait parlé d'organisation terroriste, le Hezbollah, en tout cas depuis 1976, et le fameux accord de paix signé par le ministre français Hervé de Charette avec l'ensemble des parties prenantes à la fin de ce qu'on appelait l'opération des raisins de la colère, hein, des bombardements israéliens sur le Liban. C'est là qu'il y a eu le fameux massacre de Cana, le premier. Il y en a eu un deuxième, malheureusement, pendant la guerre de cet été. Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse parler d'activité terroriste du Hezbollah de 1976 jusqu'à cette guerre. Dans cette guerre, le Hezbollah a commis des actions terroristes. Je ne parle pas de l'enlèvement des soldats. C'est une opération militaire. On peut la juger bonne ou mauvaise, ça n'est pas du terrorisme. En revanche, tirer des roquettes à l'aveuglette, là encore, sur les villes et les villages du nord d'Israël, c'est du terrorisme. On s'attaque, c'est un crime de guerre, surtout quand on met des billes, comme ça a été le cas un certain nombre de fois, dans ces roquettes. Mais immédiatement, quand on dit ça, on doit dire qu'il y a eu 40 morts du fait des bombardements civils, du fait des bombardements du Hezbollah sur le nord d'Israël, et je le répète, il y a eu 1500 morts du fait des bombardements israéliens à Gaza et sur le Liban. N'oubliez pas qu'à Gaza, dans les deux mois de juillet et d'août, il y a eu 250 Palestiniens tués. Donc, on est devant un phénomène où, c'est vrai, le Hezbollah a commis des actions répréhensibles, terroristes, des crimes de guerre, mais je dirais dans des proportions qu'on doit rappeler par rapport à ce qu'a été le ravage, le saccage du Liban. Vous savez sans doute qu'un officier israélien, ces derniers jours, a témoigné que, et notamment dans les tout derniers jours de la guerre, Israël avait bombardé le Liban, le sud Liban, avec plus d'un million, vous entendez bien, les auditeurs peut-être doivent mesurer, un million de petites bombes à fragmentation, pleines de billes, mais de billes qui tuent, hein, et qu'aujourd'hui, comme plusieurs centaines de milliers de ces bombes, on dit 500 000, n'ont pas explosé, il y a tous les jours, à l'heure où nous parlons, ça doit arriver, des petits Libanais qui trouvent ces petites bombes, les trouvent jolies, les trouvent curieuses, et meurent à cause de ces bombes. Donc je veux dire, il faut être sérieux, dénoncer ce qu'il y a eu de terroriste dans l'action du Hezbollah, c'est tout à fait légitime, il faut le faire, mais il faut dire immédiatement dans quelle proportion Israël s'est livré à des crimes de guerre incommensurablement plus élevés que le Hezbollah. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Cette semaine, nous recevons Dominique Vidal du Monde Diplomatique pour parler de la situation au Liban. Alors, il nous a expliqué tout à l'heure la façon dont la guerre s'était mise en place et s'était effectuée cet été. Et face à cette guerre, nous demandions quelle était la réaction de la communauté internationale.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est deux mesures. C'est la nouvelle version du talion. 10 yeux pour un œil et 10 dents pour une dent. Ça n'est pas acceptable. J'ai été heureux personnellement, je le dis parce que je pense, que le gouvernement français, après 2 à 3 ans d'alignement de plus en plus net sur la politique israélienne et américaine, ait retrouvé un peu d'énergie, pas beaucoup, mais un peu, et ait contribué utilement, en tout cas dans la deuxième partie de cet effort, à ce que les Nations Unies imposent un cessez-le-feu et ce que aujourd'hui le développement, le déploiement de la FINUL permettent au moins d'arrêter le massacre. Le massacre s'est arrêté. Rien ne nous dit qu'il ne reprendra pas. Beaucoup d'Israéliens, de dirigeants israéliens, de militaires israéliens, mais aussi d'Israéliens de la rue, de droite, d'extrême droite, parlent de second round. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Cela dit, au total, si cette guerre a été criminelle, et elle l'a été de manière épouvantable, elle a été aussi, du point de vue israélien, suicidaire. Je crois que les gens ne mesurent pas en France, parce qu'on n'a pas l'histoire en tête et que malheureusement les médias ne font pas leur boulot pour faire connaître l'histoire. Il faut savoir que c'est la première fois qu'une guerre d'Israël tourne aussi mal. Et voilà que pour la première fois de son histoire, Israël est en échec. C'est un échec cinglant, puisque malgré une campagne de bombardement absolument phénoménaux, j'en ai parlé, une campagne sur le terrain, eh bien, ils n'ont pas réussi à casser le Hezbollah. Jusqu'au dernier jour, la veille du cessez-le-feu, le 13 août, le Hezbollah a encore tiré près de 200 roquettes sur les villes du nord d'Israël. Et on a bien vu que même sur le terrain, les Israéliens ont eu du mal, ont été battus dans certains combats au corps à corps, en particulier autour de Beit Jebel. Donc c'est un événement d'une très grande portée historique qui dépasse largement la conjoncture. C'est-à-dire, c'est un événement pas seulement parce que Tsahal a été mis en difficulté, pas seulement parce qu'il y a une commission d'enquête, que sans doute Ehud Olmert, le Premier ministre, le ministre de la Défense Amir Peretz, le chef d'état-major Dan Khalutz vont y laisser leurs fonctions, très vraisemblablement, parce que les Israéliens se sont enflammés, que les soldats ont protesté. Non, c'est pas à ça que je pense. C'est beaucoup plus profond. Au fond, quand on y réfléchit, depuis 1948, depuis que l'État d'Israël est né, il a toujours pensé, presque inconsciemment, tellement c'était évident, que sa survie reposait sur les rapports de force militaires. Que le fait d'avoir 200 têtes nucléaires, ce qui est le cas, des tanks par milliers, des avions par milliers, une armée considérable, surtout dans la région, c'est la quatrième armée du monde, hein. Donc par rapport aux armées arabes, c'est... On a toujours pensé que ça allait suffire à garantir la survie d'Israël. Or voilà que dans cette guerre du Liban, typique, emblématique des guerres qu'on appelle asymétriques aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de symétrie entre les forces de part et d'autre, Israël a été battu, serait trop dire, mais enfin n'a pas à gagner, malgré ses rapports de force militaire écrasants. Et ce n'est pas seulement un problème de mauvais travail des services de renseignement, de mauvaise organisation de l'armée, d'erreurs de commandement. Non, il y a un problème plus profond. Et beaucoup d'Israéliens, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, mais on les lit dans Haaretz, on les lit dans Yediot Ahronot, on les entend quand on parle avec eux, se disent, mais au fond, est-ce que la survie de l'État d'Israël, au lieu de la faire reposer sur les rapports de force militaire, est-ce qu'il ne faut pas la faire reposer sur une négociation couronnée de succès avec tous les voisins, à commencer par les Palestiniens? Est-ce que la meilleure manière pour qu'un État juif, puisque c'est quand même un État juif, même s'il s'appelle juif et démocratique, c'est un État juif, et c'est son affaire. Moi, je n'ai pas à en juger. On peut penser que c'est regrettable, on peut penser que ce serait mieux d'avoir un État de tous ses citoyens.
Oui, parce que les Juifs arabes, les Arabes d'Israël, plutôt, ont sans doute
un autre point de vue. Mais, à la limite, disons, c'est leur affaire, en tout cas, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens israéliens de décider qu'est-ce que doit être la nature et la constitution. Ils n'en ont pas, vous savez, c'est pour l'instant des lois constitutionnelles de leur État, comme nous avons, nous, Français, à décider, etc. Mais, quelque part, on peut penser que si on veut qu'un État juif survive durablement au Proche-Orient, la seule manière que ça s'enracine et que ça ne soit plus remis en cause, c'est qu'il vive en paix avec ses voisins palestiniens, donc qu'il accepte qu'il y ait un État palestinien indépendant en Cisjordanie, sur la bande de Gaza, Jérusalem-Est pour capitale, démanteler les colonies, trouver une solution juste pour les réfugiés, bref, toutes choses que vos auditeurs connaissent sûrement, mais aussi avec l'ensemble des autres pays. Il faut se mettre d'accord avec les Syriens pour leur rendre le Golan qui leur appartient. Il faut se mettre d'accord avec les Libanais pour en finir avec ces interventions, ces invasions à répétition. Il faut trouver un accord, y compris avec l'Iran. Bref, je trouve que s'il y a une leçon de cette guerre, c'est qu'elle a changé un paradigme, comme on dit, majeur de l'histoire du Proche-Orient, qui était cette illusion que les rapports de force militaire allaient permettre de garantir la survie d'Israël, et la poussée, la percée de cette idée que la seule vraie garantie de la survie d'Israël à long terme, c'est un accord avec ses voisins, et en premier lieu, bien sûr, avec les Palestiniens.
Donc vous pensez que cette guerre va permettre au Grand Moyen-Orient de changer, en fait, qu'il y ait une possibilité de paix ou...
Le Grand Moyen-Orient, c'est la théorie de Bush. C'est pas la paix, c'est la guerre. Le Grand Moyen-Orient, c'est l'idée du chaos constructif. Donc on va, si vous me passez l'expression, mettre le souk partout, c'est le cas de le dire pour le Proche-Orient, et puis miraculeusement tout ça, non, non. Justement, je pense que cette guerre a mis en échec le projet de Grand Moyen-Orient, qui déjà était mal en point, parce que l'expérience de l'invasion du Liban n'est pas un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. L'expérience de la guerre d'Afghanistan non plus, la guerre du Liban encore moins, l'affaire palestinienne ne se résout pas malgré tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour écraser les Palestiniens. Bref, quelque part, cette guerre vient montrer que le projet américain, qui reste là, qui reste en place, qui se veut un projet d'avenir, il est en échec.
Alors, que pensez-vous de la résolution 1701 et de l'envoi de la finule que certains considèrent comme un, par des relents néocoloniaux ?
Le grand mérite, et le seul d'ailleurs, de la résolution 1701, c'est qu'elle a mis fin au combat. Et si vous étiez père de famille au sud du Liban, vous ne diriez pas ce que vous venez de dire. Parce que pour eux, ce qu'il fallait d'abord, c'était que ça arrête, que ce déluge de bombes à fragmentation arrête, que les Israéliens se retirent, qu'on puisse reconstruire la maison, le commerce, les activités, les bureaux, etc. Donc je crois que c'est ça l'aspect positif de la résolution. Et en soi, le déploiement de la finule renforcée, comme on dit, ne me pose pas problème. La difficulté, et là je vous donne raison, c'est dans le texte de la 1701, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est dit. C'est-à-dire on a l'impression que le texte est plus dirigé contre le Hezbollah que contre Israël, alors que, en toute logique, la finule devrait avoir un double but, s'opposer à toutes les ingérences israéliennes et, en même temps, empêcher la renaissance d'une situation de chaos au sud Liban où l'État libanais, l'armée libanaise n'aurait plus le contrôle de son propre territoire. En même temps, je suis nuancé, mais je crois qu'il faut l'être, quand je lis bien la 1701, je suis frappé que nulle part il n'est écrit qu'il faille désarmer le Hezbollah. Ça n'est pas le but de la résolution 1701, et aussi bien l'ONU, son secrétaire général Kofi Annan, que les responsables des pays qui participent à la finule, y compris Jacques Chirac, pour ce qui nous concerne comme Français, ont dit clairement que le désarmement du Hezbollah, c'est l'affaire des Libanais. C'est un débat, et ça peut être le résultat d'un accord politique entre Libanais. Et ça, je crois que c'est très positif. Après, il y a autre chose que vous dites, et sur quoi je vous rejoins entièrement. On ne peut pas isoler une résolution des Nations Unies de plusieurs dizaines d'autres. À l'époque, vous vous souvenez du début de la guerre du Liban, Israël avait dit « Nous intervenons pour faire appliquer la résolution 1559 que les talibanais et les pays occidentaux n'ont pas réussi à faire appliquer. » C'était bien la première fois qu'Israël voulait faire appliquer ou appliquer lui-même une résolution des Nations Unies. Parce que si vraiment c'est là son intention, on s'en félicite et on a un petit catalogue. Vous connaissez l'opéra, bien sûr, de Don Juan, Mozart. Et il y a, à un moment, ce très beau chant du catalogue que le serviteur de Mozart déploie. C'est toutes les femmes de Don Juan. Et ça se finit par 1003. Mais en gros, c'est ça. On peut dérouler le catalogue de Don Juan pour Israël. Je ne suis pas sûr qu'Israël soit un Don Juan, mais c'est autre chose. Et on peut faire la liste de toutes les résolutions des Nations Unies qu'Israël n'a jamais appliquées, ni jamais même voulu appliquer, ni jamais prétendu vouloir appliquer. On peut commencer par la résolution 181 du 29 novembre 1947 qui prévoyait le partage de la Palestine en deux États, Israël et un État arabe. J'ai dit tout à l'heure comment ça n'avait pas eu lieu. On peut continuer avec la résolution 191 du 11 décembre 1948, qui prévoit le droit au retour des réfugiés palestiniens chassés par le conflit. On peut continuer avec la résolution 242 du 22 novembre 1967, qui prévoit le retrait d'Israël des territoires occupés pendant la guerre en échange de sa reconnaissance et de son droit à l'existence et à la sécurité, etc., etc., jusqu'aux toutes dernières résolutions de 2002-2003, prévoyant effectivement deux États, l'État d'Israël et un État de Palestine, à naître dans le cadre de la feuille de route, etc. Donc, soyons sérieux. On ne va pas opposer une résolution qui a des mérites et des défauts et des faiblesses à toutes les autres. Moi, je suis pour qu'Israël et la communauté internationale appliquent toutes les résolutions des Nations Unies. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Torah, mais quand même, dans cet ensemble de résolutions, il y a de quoi assurer la paix entre Israéliens et Palestiniens, et par là même, entre Israël et l'ensemble de ses voisins dans la région. Ce serait pas mal.
Et que pensez-vous, en fait, de la recomposition politique du Liban après cette guerre ? La façon dont les forces vont se mettre en place.
Il va y avoir bientôt des élections, je crois. Le Hezbollah peut les remporter. Que peut-il se passer ?
C'est extrêmement compliqué de lire dans le marc de café, même au Proche-Orient. Et là, vous êtes mal tombé parce que je fais partie de ces journalistes ou de ces spécialistes du Proche-Orient qui ont deux défauts rédhibitoires. D'abord, comme vous me demandez, de ne pas lire dans le marc de café. Je ne le fais jamais. Et deuxièmement, de ne parler que de ce que je connais bien. La seule chose qui est claire, c'est que la guerre a modifié des rapports de force qu'on pouvait juger extrêmement difficiles pour le Hezbollah, qui semblait isolé par le printemps de Beyrouth, par cette grande alliance anti-syrienne autour de la famille Hariri, de tout ce que le Liban compte de grande bourgeoisie, mais aussi avec l'appoint de la petite et la moyenne bourgeoisie, de l'ensemble des druzes autour de Walid Jumblat, qui a oublié qui était son père, Kamal, de toute évidence. Kamal avait une autre vision de l'alliance de l'ensemble des forces progressistes et nationales que celle que son fils Walid pratique aujourd'hui. Visiblement, la guerre a beaucoup changé les choses. C'est-à-dire, on a à la fois un enracinement sans précédent du Hezbollah parmi les chiites. Quand vous dites remporter les élections, il ne peut les remporter qu'au niveau des chiites. Le Hezbollah ne peut pas diriger un pays fait à la fois de chiites, de sunnites et de catholiques, et de chrétiens, disons, maronites. Ça n'est pas pensable. Tant que, en tout cas, il n'y aura pas une majorité chiite au Liban. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que non seulement le Hezbollah s'est enraciné dans sa propre communauté, mais contrairement à ce qu'espérait Israël, qui pensait pouvoir opposer les communautés les unes aux autres, parmi les chrétiens et parmi les sunnites, un très grand nombre de personnes et de dirigeants ont été solidaires du Hezbollah, et ça se sent aujourd'hui dans les rapports de force politiques au Liban. Je ne crois pas que cela puisse suffire à créer une alliance majoritaire qui, je dirais, ferait basculer le Liban pour aller vite hors du camp occidental. Ça, je ne le crois certainement pas. Et ce n'est pas demain la veille. Le Liban, c'est le Liban. C'est quand même... C'était du temps où c'était la paix, la Suisse du Moyen-Orient. Hein, c'était son surnom. Donc, le jour où la Suisse basculera à gauche, vous reviendrez m'interviewer. On sera très vieux, tous les trois, surtout moi. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est très important, c'est l'enracinement du Hezbollah dans sa communauté, et le fait qu'il ait eu un élargissement sensible de la solidarité avec son combat, aussi bien parmi les chrétiens que parmi les sunnites. Ça rend plus difficile des stratégies de guerre civile qui pourraient être celles de certains dirigeants libanais. Ça, je crois que ça ne se fera pas, en tout cas, dans la période à venir visible à vue humaine, quoi.
Oui, et cet élargissement, précisément, il n'est pas facteur de capacité de briser le confessionnalisme qui a structuré la société libanaise.
C'est évident, mais là, vous me demandez un avis pas seulement de spécialistes, mais de militants. J'ai toujours pensé qu'il fallait en finir avec ce système confessionnel, qui est un système d'inégalité généralisée et de manipulation de l'ensemble des communautés par les forces de l'argent en particulier, plutôt que par les uns ou les autres. Vous savez, au moment de la guerre civile libanaise, certains militants de gauche disaient « oui, c'est les chrétiens contre les musulmans ». Bien sûr qu'il y avait de ça. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie maronite ne voulait pas qu'on modifie le système confessionnel et que de ce point de vue, les reculs démographiques des chrétiens par rapport aux musulmans et parmi les musulmans, des sunnites par rapport aux chiites, les angoissaient. Mais je pense, moi, Et je pensais à l'époque, je l'ai écrit, je me souviens que j'ai fait un papier dans Hérodote. J'ai dit, attention, le système confessionnel libanais, c'est une alliance de toutes les élites contre leur propre communauté. C'est-à-dire, quand on regarde bien ce qu'on appelle le pacte national du Liban et ce qui s'est développé ensuite, ce qui s'est institutionnalisé avec le pacte national de 1943, hein, je veux dire, sous la tutelle française, c'est quoi? C'est une alliance entre les dirigeants maronites et les dirigeants sunnites, essentiellement, pour tenir le pays au détriment des chiites d'une manière massive, mais aussi au détriment de leur propre communauté, au détriment des pauvres chrétiens, et il y en a, et des pauvres sunnites, et il y en a. C'est-à-dire, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, un système ou une machine de guerre des chrétiens contre les musulmans, même s'il y a cette dimension, c'est d'abord une espèce de carcan que les dirigeants des élites maronites et sunnites ont créé pour tenir le pays et faire face, faire front devant les forces montantes et notamment des couches les plus pauvres, maronites, sunnites et bien sûr, surtout chiites. Les vrais exclus de toute cette histoire, c'est les chiites, parce que là, même l'élite chiite n'était pas admise à grand-chose dans le partage des miettes du gâteau libanais. Donc c'est clair que cette guerre marque une étape de plus vers la mise en cause du système confessionnel. Je regrette, cela dit, qu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne pose clairement la question de la déconfessionnalisation comme un objectif politique à court terme. Moi, je pense que c'est dommage. Et c'est dommage notamment, mais là, on revient au début de notre conversation sur la nature du Hezbollah, du Hamas et de ce type de mouvement. Ce type de mouvement n'a pas une vision laïque des perspectives nationales de leurs pays respectifs, évidemment, puisque ce sont des mouvements religieux, pour une part, et dans certains cas intégristes. Donc là, on a un vrai nœud de contradiction extrêmement fort. Autant je regarde avec beaucoup d'empathie ce qu'a pu faire le Hezbollah dans la résistance à Israël et dans la reconstruction d'un Liban plus démocratique, plus social, où les plus pauvres aient leur place, autant je ne peux pas, jusqu'à présent en tout cas, me réjouir de leurs avancées dans la perspective de la déconfessionnalisation.
En tout cas, merci beaucoup à Dominique Vidal de nous avoir éclairé sur le conflit au Liban. Si vous voulez plus de renseignements sur la situation au Proche-Orient, vous pouvez lire Les Sans-Clés du Proche-Orient qu'il a écrit avec Alain Grèche, et c'est aux éditions Hachette.